Amen. Je suis encore dans la joie de partager ce message avec vous, un message d'espoir, d'espérance et d'amour. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller ensemble dans le livre de Marc, au chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46 nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était, Marc 10, verset 46. Je recommence. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Nous allons prendre la même lecture dans Matthieu 20, verset 29. Matthieu 20, verset 29. Matthieu 20, verset 29, c'est Matthieu qui reprend le même personnage, mais il va parler de deux aveugles. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendus que Jésus passait et criait, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Et je veux m'arrêter là. On se rend compte que quand Matthieu parle de lui, Matthieu ne lui donne pas un nom. Marc a pris le soin de lui donner un nom. Et on a dit que cet aveugle s'appelait Bartimée. Et Bartimée qui signifie fils de Timée. Mais le problème, c'est que il faut aller plus loin. Que veut dire Timée? Timée veut dire honoré de Dieu. Parce que en espagnol ou en italien, on dit Timéo, un prénom que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ça vient du grec Timé, mais qui en hébreu, c'était Timéon, qui voulait dire honoré de Dieu. Voilà un homme que dès sa naissance, quand ses parents l'ont mis au monde, ses parents lui ont donné un nom, honoré de Dieu. Mais ils étaient loin de savoir qu'un jour, de ce nom, fils de l'honoré de Dieu, son nom devait passer à l'aveugle de Jéricho. Donc quand on le voyait, on l'appelait plus par son prénom. On l'appelait plus par son nom. On l'appelait l'aveugle de Jéricho. Et je crois que souvent, il avait envie de dire, non, j'ai un nom. Et mon nom, c'est Bartimée, qui veut dire fils de l'honoré. On verra que même Luc fera la même chose. Il ne prononcera même pas son nom. Il dira aussi, il y avait sur le chemin de Jéricho un aveugle. Du jour au lendemain, ce garçon en qui ses parents avaient mis un nom de bénédiction, c'était un nom de malédiction qui lui suivait, l'aveugle. Qui aurait pu imaginer que de ce petit garçon que sa famille avait mis dans sa vie un nom de bénédiction aurait pu terminer ainsi? Qui aurait pu croire que la vie de Bartimée, fils de l'honoré de Dieu, sa vie aurait pu terminer ainsi? Dernièrement, on était à une des activités qu'on fait pour l'église. Et M. Maréchal prenait ce témoignage qu'on avait partagé avec lui. C'était un jeune homme qui peut-être maintenant est déjà expulsé de sa maison parce que c'est la trêve hivernale et c'est le moment où les propriétaires ont le droit de mettre leurs locataires qui n'ont pas payé dehors. Et ce sans-abri qui aujourd'hui n'aurait plus peut-être d'abri parce qu'il m'a dit on devait m'expulser bientôt parce que c'est le temps où la trêve hivernale est finie et qu'on peut m'expulser. Et ce jeune homme, il a un bac plus 4. Donc ça veut dire que ce jeune homme, un jour, il a eu un bac. Un jour, il a eu un bac plus 1, un bac plus 2. Il est arrivé jusqu'au bac plus 4. Et du jour au lendemain, il se trouve sans abri. Quel parallèle! Croyons-nous que ses parents auraient pu imaginer un jour ça de lui? Il était là, il disait, je cherchais quelqu'un qui va me donner un espoir. Je cherchais quelqu'un qui va pouvoir me donner un travail. Et qui va pouvoir me permettre de valoriser ces années d'études. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à la rue, avec un bac plus 4. La vie de Bartimée était résumée à quitter de chez lui et aller dans la rue, à attendre la générosité des hommes, et attendre qu'un homme puisse un jour passer et lui donner une petite pièce. Jusqu'à un jour, il va entendre qu'à Jérusalem, il y a un homme qui est en train de passer. Et il demande à ses amis qui sont là, ses compatriotes qui sont là, qui est en train de passer. On lui dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. Et moi, je crois que à cet instant, Bartimée a réalisé quelque chose. Parce qu'on lui a dit que c'était Jésus. En ce moment-là, il y avait plusieurs noms de Jésus. Il y avait plusieurs Jésus. Mais on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Et quand on disait Jésus de Nazareth, directement, il savait qu'il y avait un Jésus qui devait arriver. Le Messie, mais qui devait naître à Jérusalem. Et à cet instant, il va s'arrêter. Et moi, je crois qui s'est rappelé de la promesse qui avait été faite sur la personne de Jésus-Christ. Et nous allons le lire ensemble, cette promesse, dans 2 Samuel 7,14. Cette promesse qui l'a poussé à appeler Jésus, fils de David. 2 Samuel 7,14. De Samuel 7, 14 dit ceci. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Une version dit, ton trône sera pour toujours éternel. Et elle parle de la venue du Fils de Dieu, qui était Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est dit de cet enfant qui devait venir? On va le lire dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4. Et ce qui est dit du Fils de la promesse à Ésaïe 35 au verset 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs et la langue des muets éclateront de joie. On va s'arrêter là. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand Bartimée a réalisé que le Messie était là, il a compris que la promesse qui avait été faite par Dieu était arrivée. Et voilà pourquoi il a dit un nom. Un nom que beaucoup ne connaissaient pas, fils de David. Ce qui veut dire fils de la promesse. Fils de la promesse qui nous a été faite. Fils de la promesse qui était la nôtre. Nous, enfants d'Israël. Et Bartimée va crier, Jésus, aie pitié de moi. Bartimée se lève à cet instant pour saisir l'opportunité et la bénédiction qui est pour lui à cet instant-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on entend? Des hommes qui lui disent, Bartimée, tais-toi. Bartimée, ce n'est pas pour un aveugle cette affaire de bénédiction. Bartimée, ce n'est pas pour quelqu'un de ta classe cette affaire de bénédiction. Bartimée, tais-toi. Ne dis rien, Bartimée, si ce n'est pas pour toi. Les oppositions de la vie. Un jour, le psalmiste dira, c'est celui qui mange mon pain, qui me livre entre les mains de mes ennemis. Malheureusement, les oppositions peuvent venir des gens les plus proches de vous. Ce n'est pas un étranger qui a dit à Bartimée de se taire. On l'a lu ensemble, non? C'est ses compatriotes israélites. Le jour où la bénédiction va venir pour lui, ils le disent, tais-toi. Ce n'est pas pour toi. Ceux qui étaient censés l'aider à pouvoir saisir la bénédiction, ce sont eux qui l'enfoncent et qui lui rappellent sa misère. Tous ces gens sur notre route qui viennent nous rappeler notre passé, nos échecs, nos erreurs. Ces personnes qui un jour sont passées dans notre vie et nous ont laissé des mots qu'on n'aurait pas aimé entendre. De toute façon, les choses, ça ne changera pas. Tu as toujours été comme ça. Comment tu veux que ça change aujourd'hui? Toi aussi. Vous croyez que c'est ce que Bartimée a besoin d'entendre? Mais Bartimée va prendre position. Parce qu'il savait déjà qu'il était aveugle. Il savait déjà qu'il n'avait rien. Il savait déjà même que pour avancer, il fallait
Soit il faisait son bâton, soit quelqu'un le tient, que quelqu'un le tienne par la main. Il savait déjà que sa vie était déjà sombre. Il savait déjà tous ces problèmes-là. Et ce dont il avait besoin, ce n'était pas qu'on lui parle de son passé, mais ce dont il avait besoin, c'était qu'on puisse lui dire qu'est-ce que sera son avenir. Et ces gens sont venus pour lui dire, regarde ton passé, regarde ta vie, tu ne mérites pas d'avoir ça. Et malheureusement, beaucoup se sont arrêtés. Parce que quand ils se sont rendus compte qu'en Jésus-Christ, ils pouvaient trouver quelque chose, les circonstances de la vie les ont arrêtés. Les mauvaises paroles des gens les ont arrêtés. Les échecs de leur propre vie les ont arrêtés. Et souvent, d'autres sont allés jusqu'à proclamer même des mauvaises paroles sur eux-mêmes. De toute façon, je n'y arriverai pas. Mais si vous pensez comme ça de vous, sachez que Dieu ne pense pas comme ça de vous. Et Bartimée n'a pas laissé le doute le gagner. Parce qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, souvent le fait qu'on a dit des mauvaises choses sur nous, souvent le fait qu'on nous a rappelé nos échecs, souvent le fait qu'on a dit, mais de toute façon, ça n'a jamais rien changé. Ça a ramené le doute. Et M. Maréchal nous en parlait encore ce matin. Mais Jacques dit ceci, dans Jacques 1, au verset 6, Jacques 1, verset 6, il dit, on va commencer par le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qui recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Mais ce jour-là, Bartimée a décidé de ne pas être un homme irrésolu. Bartimée a décidé de ne pas rester là, être un homme inconstant dans ses voies. Et il s'est levé, il a encore crié à Jésus. On aurait pu dire, mais Jésus, est-ce que la première fois tu n'as pas compris? Mais moi je crois que Jésus voulait aussi voir s'il ne devait pas douter, s'il croyait vraiment à ce qu'il demandait. Et ce qu'il a crié, il n'a pas crié autre chose. Il a encore crié, fils de David, il dit, je sais ce que je demande. On a dit qu'en ton nom, quand tu seras là, les aveugles verront. Je sais ce que tu demandes, tu es le fils de la promesse. Je n'appelle pas à autre chose. J'appelle à la promesse qui a été faite au peuple d'Israël. Il y a une promesse qui a été faite sur notre vie. Et Jésus va dire à Bartimée, il va dire aux gens, appelez-le. Il va dire aux gens, appelez-le. Et remarquez quelque chose. Ceux qui vont appeler Bartimée, c'est les mêmes qui l'ont demandé d'eux. Moi, je ne comprends plus. Les mêmes qui ont dit tais-toi, c'est les mêmes à qui Jésus dit demande-lui de venir. Ça veut dire les gens qui vous ont persécuté, c'est les mêmes gens que Dieu va se servir pour vous bénir. Oh, on a dit que mon père ne m'aimait pas. C'est ton père là qui va lui-même te bénir. Vous vous rappelez de Joseph en Égypte? Les Égyptiens l'ont mis en prison et c'est les Égyptiens eux-mêmes qui l'ont béni. Voilà pourquoi vos ennemis, si vous voulez maudissez le jour de votre bénédiction, vous n'aurez pas votre bénédiction. Parce que souvent, Dieu se sert de l'ennemi pour vous bénir. Mais Bathimée savait qu'en Jésus-Christ, il y avait quelque chose que dans les autres hommes, il n'y avait pas. Et quand Bathimée se lève, on dit qu'il jette son manteau. Il y a plusieurs endroits où on parle de Bathimée, et ça, c'est le seul endroit où on dit que Bathimée jette son manteau. On est en hiver, non? On est en fin de l'hiver. À quoi nous sert le manteau? Mais on dit à Bathimée, Bathimée, Jésus t'appelle, et Bathimée jette son manteau. J'ai envie de dire à Bathimée, hey, Bathimée, toi, tu n'es même pas encore guéri. Toi, tu n'as même pas encore reçu la bénédiction, mais tu jettes déjà le manteau. Mais mettez-vous maintenant à la place de Bathimée. Vous avez déjà vu un mendiant ou un clochard avec son manteau? Ça ressemble à quoi, son manteau? En général, son manteau, il est comment? Est-ce qu'on va prendre la bénédiction? Vous allez chez le président de la République avec un manteau sale? Bathimée a compris que c'était le temps de jeter les choses du passé et de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Et ce manteau qui signifie que Bathimée a réalisé qu'il était temps d'entrer dans la promesse qui avait été faite par Dieu au peuple d'Israël. Donc il savait qu'en jetant son manteau et en allant voir Jésus, Jésus ne pouvait pas lui dire, finalement, Bathimée, je me suis trompé. Parce que si Jésus aurait refuté ou refusé le fait que Bathimée vienne vers lui, ce n'est pas Bathimée qui aurait été menteur. Qui aurait été menteur, c'est Jésus. Donc quand Bathimée a jeté son manteau, il a compris qu'à cet instant, celui-ci est le représentant de Dieu. Et en tant que représentant de Dieu, il se doit de dire la vérité et de faire ce qui a été promis. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et en jetant le manteau, qui est l'image de son passé, il marquait l'acte de foi par laquelle il proclamait à ses circonstances à lui qu'il saisissait la grâce de Dieu qui lui était donnée. Et ce jour, Bathimée a jeté le manteau. Mais malheureusement, c'est un grand problème dans la vie de beaucoup. Et souvent dans ma vie même, mais par la grâce de Dieu, on a grandi. Parce que souvent, il y a des manteaux qu'il faut jeter pour aller prendre la bénédiction. Il y a beaucoup qui ont voulu garder des manteaux et aller chercher la bénédiction. J'ai connu un homme, on m'a raconté, c'était un témoignage, pardon, où cet homme, il est arrivé pour qu'on prie pour lui, parce qu'il voyait, on priait pour les malades. Et il est venu, et il était sur une chaise d'handicapé. On lui a dit, monsieur, on va prier vraiment que Dieu vous guérisse. Il dit, non, ne priez pas pour que Dieu me guérisse. On dit, mais comment ça? Tu es bien malade et tout, il faut qu'on prie pour que Dieu te guérisse. Il dit, non, si vous priez et que je suis guéri, je ne pourrai plus toucher mes allocations. Eh oui, il voulait la bénédiction, mais il ne voulait pas jeter son manteau. Il avait peur de perdre quelque chose. Vous connaissez ce jeune homme riche qui avait tout fait. Mais quand Jésus lui a dit, vends-la et donne la moitié, même pas tout, donne la moitié de tes biens aux pauvres. Non, Jésus, je veux la bénédiction, mais je veux aussi garder mon argent. Les manteaux de la vie. Je m'appelle une femme à qui je lui parlais de l'amour de Dieu, comment Dieu pouvait lui toucher, comment Dieu pouvait la guérir et la transformer. Emma, elle était vraiment convaincue que Dieu voulait faire quelque chose pour elle. Mais Emma, elle s'est arrêtée. Elle me dit, mais ça veut dire que je veux pardonner à ma belle famille. Ça veut dire que je veux leur pardonner tous les blessures qu'ils m'ont fait. Que je... Et j'étais là, je disais, mais tout l'évangile est effondré. Parce qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle devait pardonner. Elle était contente d'être esclave du pardon. J'ai dit, mais oui, quand vous allez pardonner, vous allez être guéri. Mais elle était contente de vivre dans cet état de haine. Parce que c'était logique, les gens l'avaient fait mal, les gens l'avaient blessé, et c'était normal qu'elle puisse haïr les autres pour pouvoir, enfin, que la vengeance puisse être vue, je ne sais pas comment dire. Mais moi, je comprenais qu'elle était dans la prison parce qu'il y avait haine qui la mangeait. Le manteau de la haine. Elle ne pouvait pas entrer dans la bénédiction, parce que sa bénédiction à cet instant, ça devait être de quitter sa haine et d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Mais malheureusement, elle est restée dans la haine. Et je suis parti sans qu'elle ne puisse me dire, prions ensemble afin que Dieu puisse m'aider à pardonner ceux qui m'ont offensé. La peur de quitter son confort. Seigneur, j'ai mon petit jardin. J'ai mon petit chéri. J'ai ma petite vie. Et si on pouvait faire avec, ça m'arrangerait. Mais malheureusement, dans la vie, même son propre confort, il faut le quitter. Et vous connaissez l'histoire de cet homme qu'on appelait Abraham. Un jour, il a été obligé de quitter son confort. Quitter les biens de ses parents et peut-être aussi son héritage. Pour aller dans la bénédiction de Dieu. Vous connaissez cette femme qu'on appelait la femme samaritaine qui un jour a dit à Dieu, oui, je sais que même l'homme avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Et quand Jésus lui a prêché l'évangile, on dit cette femme a laissé sa cruche. Et la cruche ce jour, c'était tout ce qui lui rappelait qu'elle habitait chez un homme. Elle n'était pas la femme de cet homme. Elle a pris ses affaires, elle a dit, je laisse la cruche parce que la cruche me rappelle que je suis dans une maison. Et cette maison, je ne devais pas y être. Elle a laissé sa cruche et elle est partie. Et un jour, Pierre dira à Jésus, et nous qui avons tout laissé pour te suivre. Et Jésus lui dira, il n'y a personne qui a tout laissé pour me suivre et qui après n'hérite pas au centuple, ce qu'il a perdu. Si vous ne l'avez pas compris, ça, Bartimé, lui, l'a compris. Et il a dit, mon passé, mes erreurs, ma vie d'échec, je la laisse derrière. Et nous pouvons prendre ce passage qui dit, on va le lire ensemble dans Romains 8. Parce que c'est le passage que j'ai envie de laisser sur votre cœur cet après-midi. Romains 8, verset 1, dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bartimée a fait le choix de laisser le manteau du passé. Et quand il va arriver devant Jésus, il va encore crier Jésus. Jésus va lui demander pardon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je te fasse pardon? Que je pourrais aussi traduire par que veux-tu que je fasse pour toi? On pourrait dire à Jésus, mais tu sais déjà qu'il est aveugle. Tu sais déjà qu'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il pourrait encore te demander d'autre? Mais je crois qu'à cet instant-là, ce n'est pas qu'à Bartimée que Jésus parlait. Il parlait aussi à tous ceux qui étaient autour de lui. Et il parlait aussi à nous aussi aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Que je te la dise aussi, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu me dis tu as tout, vaut mieux que tu demandes que Dieu te reprenne. Mais moi je crois que chacun d'entre nous, cet après-midi, nous avons un besoin. Moi je crois que peut-être nous ne sommes pas aveugles comme Bartimée. Il y a quelque chose en nous à quel on voudrait dire à Jésus, Jésus, ça, si tu pouvais l'enlever, ça, si tu pouvais le guérir, ça, si tu pouvais me le donner. Donc cette question posée à Bartimée, elle est aussi la nôtre aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse? Et Jésus a demandé ça à Bartimée parce que Jésus savait que Bartimée croyait qu'il était capable de le faire. Croyez-vous que Dieu est capable de faire encore des miracles aujourd'hui? Oui, Bartimée croyait que Dieu était, que Jésus-Christ était capable de le faire parce que Bartimée savait que les promesses qui avaient été faites sur la vie de Jésus-Christ était celle-ci. Il était celui qui avait été oint par Dieu afin de porter le péché de l'humanité. Il était celui qui avait été envoyé par Dieu afin d'annoncer une année de grâce. Il était celui qui avait été envoyé par Dieu pour guérir les malades, pour redonner la vue aux aveugles et pour redonner aussi la vue à ceux qui ne voient plus spirituellement. Il était celui qui avait été envoyé par Dieu afin de porter nos péchés, afin de porter nos vices, afin de porter nos inquiétudes, afin de porter notre dépression. Donc, comme Bartimée aujourd'hui, nous voulons dire, mes vices, je les laisse derrière. Mon passé, je le laisse derrière. Ma dépression, je le laisse derrière parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est celui qui veut me donner une nouvelle vie. Une vie que je n'avais pas avant. Et Jésus-Christ, il est celui qui, après avoir pris tous mes échecs, mes erreurs, mes inquiétudes, mes angoisses à la croix, et qu'il est mort pour cela, aujourd'hui, maintenant, il n'attend pas le ciel pour me permettre de vivre. Il est ressuscité pour qu'aujourd'hui je puisse vivre. J'attendais pas demain pour vivre. J'attendais pas après-demain pour vivre. J'attendais pas que quelqu'un vienne me dire maintenant, 800 sur le temps de vivre. Christ m'a dit, c'est maintenant que tu vis parce qu'il est vivant. Et aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mes erreurs, elles sont enterrées en Jésus-Christ. Mon passé est enterré en Jésus-Christ. Mon humiliation est enterrée en Jésus-Christ. Les mauvaises paroles des hommes, ils sont enterrés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous offre une nouvelle vie. Si vous voulez attendre demain, moi personnellement, je n'attendrai pas demain. Car demain aura soin de lui-même. Moi, c'est aujourd'hui que je veux saisir la victoire. Christ est mort pour moi aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Alors on va se lever ensemble. Et vraiment dire, Seigneur, aujourd'hui je veux saisir ma victoire. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit Jésus. Un membre de ta famille n'est pas converti. Quelqu'un crie dans la maladie. Tes enfants ne sont pas convertis. Dieu te demande cet après-midi. Dieu vous demande cet après-midi, que veux-tu que je fasse? Et si je vous fais lever tous ensemble, tous rassemblés, c'est parce que nous tous nous sommes concernés. Et depuis cette semaine, ce qui criait dans mon cœur, c'est que Wilson, la création attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est temps que l'Église s'élève pour crier à Dieu. Et dit, Seigneur, voilà ce que nous voulons que tu fasses pour notre pays. Voilà ce que nous voulons que tu fasses pour notre nation. La nation a besoin de toi. Nous sommes des ouvriers entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu attend le cri de la création vers son Père, vers son Créateur. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, nous sommes là, Seigneur mon Dieu, devant toi cet après-midi. Oui, nous voulons répondre, mon Dieu, à cette question que un jour tu as posée à Bartimée. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Seigneur Dieu, à cet instant, je ne voudrais pas parler pour ma part dans ce micro. Mais je veux, Seigneur mon Dieu, venir, Seigneur mon Dieu, donner encore cette occasion au peuple de Dieu d'élever sa voix et de dire, Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses dans ma vie. Et je veux prendre 2 minutes, je vous en supplie, on va prendre 2 minutes. Que chacun de nous puisse dire à Dieu, voilà ce que, Seigneur, je veux que tu fasses. Amen. On va prendre 2 minutes, après on va conclure ce moment. On prie ensemble. Seigneur Dieu, Seigneur mon Dieu, viens encore dans nos cœurs cet après-midi. Seigneur, voilà ce que c'est mon Dieu. Thank you.